Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Étienne Brack.
15h pile, bonjour à tous et toutes, c'est BFM Business et BFM Bourse. On est ensemble en direct jusqu'à 18h pour analyser, commenter la séance du jour avec pour l'instant un rebond qui se poursuit sur le CAC 40 qui tente d'aller vers les 6300 points, 6276 points. C'est un gain de 0,3%. Dans un instant, on sera du côté des États-Unis car c'est là que ça se passe avec la donnée de la semaine qui a été publiée il y a maintenant une demi-heure. La publication du PIB au deuxième trimestre aux États-Unis avec un consensus qui s'attendait à une petite croissance quand même au deuxième trimestre, et finalement c'est une contraction du PIB au deuxième trimestre, une contraction de 0,9%. On verra tout cela dans un instant. Est-ce que ça veut dire que ça y est, l'économie américaine est en récession? Sabrina Claudie-Odine en parlera dans un instant, et puis on en parlera bien évidemment tout au long de l'émission, notamment dans un peu plus de 10 minutes avec Gilles Mouek qui nous attend depuis AXA afin d'analyser cette conjoncture américaine, avec également la Banque Centrale Américaine, la Fed hier, qui a annoncé relever ses taux de 75 points de base. Quel impact sur les marchés. On en parle bien sûr tout au long de la journée. Et puis surtout, on va parler des publications d'entreprises car c'est la journée de la semaine. En l'espace de 24 heures, entre hier soir et ce matin, vous avez quasiment 15 sociétés du CAC 40 qui ont dévoilé leurs résultats semestriels. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, mais vous verrez, vous avez quand même pas mal de titres qui perdent du terrain aujourd'hui. On va aborder ces publications dans un instant avec notamment Eric Blaine qui nous attend depuis Swiss Life Banque Privée. En attendant, il est 15h02 et tout de suite, on se projette sur la séance du jour.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Une séance à Paris qui sera bien sûr dépendante de la tendance à Wall Street. Qu'est-ce que ça va donner dans un peu moins d'une demi-heure à 15h30 pour nous? Tout de suite, on rejoint Sabrina Quagliozzi qui nous attend depuis New York. Que donnent pour l'instant les futurs américains, Sabrina, aux États-Unis, surtout en réaction avec la publication du PIB au deuxième trimestre aux États-Unis?
Écoutez, c'est assez hésitant là sur les trois futurs américains depuis la publication de ce chiffre très attendu. Rappelons déjà qu'hier, on a quand même une très très belle séance, hein, un Nasdaq qui a grimpé de 4%. On n'avait pas vu ça depuis très très longtemps, dans le sillage bien sûr de la Réserve fédérale américaine, une hausse de 75 points de base pour la deuxième fois d'affilée, hein, pour combattre l'inflation, mais une Fed qui s'est montrée un peu moins agressive, hein, puisqu'elle indiquait que la Fed pourrait ralentir le rythme, l'ampleur des hausses de taux selon, bien sûr, les données. Alors, les données, on en a une aujourd'hui, effectivement, hein, les chiffres du PIB, contraction pour le deuxième trimestre d'affilée. C'était une contraction d'1,6% au premier trimestre. C'est une contraction de 0,9% au deuxième trimestre. Signal fort que l'économie est bel et bien en récession. Alors, c'est le Bureau national de la recherche économique, hein, qui détermine officiellement si l'économie américaine est en récession ou non. Alors, ça va intervenir dans plusieurs mois, mais oui, voilà, récession. En tout cas, bah, sur ces futurs américains, on est donc très hésitant. Le Dow Jones futur est vraiment sur le fil, 32 171 points. Le S&P 500 futur, inchangé, plus 0,1%. Le Nasdaq futur également quasi inchangé. Réaction du côté de l'obligataire, eh bien, vous avez un 10 ans qui reste sur son mouvement de détente, 2,71 actuellement. Le pétrole, de son côté, est en petite hausse, juste en dessous des 100 $. Challenge donc pour l'économie, l'inflation bien sûr, hausse de taux et intensification des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement. Tout cela a pesé donc sur le deuxième trimestre, dans une séance qui bien sûr aussi est marquée par les résultats d'entreprise. Ouf, pas terrible du tout pour Meta. C'était hier soir après la clôture, première baisse de son chiffre d'affaires de son histoire, division de réalité virtuelle, hein, qui perd une tonne, 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le plus gros problème, c'est bien sûr, en tout cas dans l'immédiat, les revenus publicitaires, hein, comme Snap, Twitter, ça va pas du tout. De ce côté-là, le titre Meta qui recule en avant-bourse, on aura ce soir Apple et Amazon. Donc, un début de séance très hésitant, on verra ce que ça donne, bien sûr, tout à l'heure. Mais donc, pour le moment, Étienne, après la publication de cette contraction du PIB, on a un Dow Jones Futur qui est quasi inchangé, le S&P 500 également, le Nasdaq Futur, petite baisse de 0,17%. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Dans une demi-heure, à tout à l'heure, Étienne.
Rendez-vous à 15h30, en effet, pour l'ouverture de Wall Street. À tout à l'heure, Sabrina. En attendant, on rejoint Eric Blaine qui nous attend depuis Swiss Life Banque Privée. Bonjour et bienvenue, Eric.
Oui, Étienne, bonjour. Bonjour à tous.
Je rappelle que vous êtes directeur général de Swiss Life Banque Privée. Merci de nous accorder quelques minutes pour commenter les publications du jour qui sont particulièrement chargées avec aujourd'hui tous les poids lourds de la cote qui ont publié leurs résultats. On a envie de dire, ça passe ou ça casse, hein. C'est plus 4 ou moins 4 aujourd'hui, c'est un petit peu le tarif.
On peut quand même revenir. C'est moins qu'on puisse dire.
Ouais, c'est moins qu'on puisse dire, notamment pour Airbus, hein, là, qui perd 3,9%, avec un groupe qui finalement revoit à la baisse ses prévisions en termes de livraison.
Oui, alors c'est vrai. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, la chaîne de production, la chaîne logistique est vraiment un sujet majeur. On l'a vu aux États-Unis dans les publications et on le voit avec Airbus, Safran et d'autres. Hein, c'est vraiment le sujet. Airbus a des commandes et il aimerait bien les honorer, mais il a du mal à produire. Et donc, il revoit ses objectifs en fait de production et de livraison d'avions 2022 de 720 avions à 700. Bon, c'est pas un drame hein, puisque quand on regarde sur un plus long terme, il n'a pas changé ses objectifs à l'horizon 2025, hein, c'est une livraison de 75 avions par mois d'ici à 2025. Donc l'objectif de cadence de production est inchangé, mais comme le titre avait quand même bien monté, largement repris depuis maintenant un petit moment, il y a des prises de profit sur cette nouvelle. On était quand même passé de 93 à 107, on passe à 102, nous on est positif. Je pense que par rapport à Boeing, il y a une énorme différence entre Airbus qui a pris un leadership énorme.
À l'inverse, ça se passe très bien aujourd'hui pour Stellantis. Alors, secteur automobile qui est toujours sous pression, avec notamment les pénuries de semi-conducteurs et j'en passe. Mais on a quand même, dans le même temps, Stellantis qui annonce aujourd'hui une marge opérationnelle record, 14% de marge opérationnelle. Rien n'arrête Stellantis, on a envie de dire aujourd'hui, Eric.
C'est vrai que c'est très impressionnant, cette publication. Elle est bien supérieure aux attentes. Elle est sur des performances impressionnantes sur toutes les zones. La guidance 2022 est confirmée et on sait que l'automobile, pour parler de chaîne logistique, c'est extrêmement compliqué pour l'automobile. Et on a Stellantis qui fait un chiffre d'affaires de 88 milliards d'euros, en progression de 17%, avec des prix de vente élevés et des effets de change positifs, parce qu'on sait que maintenant ils sont très impliqués aux États-Unis. Et donc tout ça donc compense l'impact des pénuries de composants, l'inflation, les sujets de guerre en Ukraine. Donc là, on a une marge courante, comme vous l'avez dit, Étienne, de 14%. On avait 11,4% un an plus tôt. On a un bénéfice net qui est en hausse de 34%. Donc on a des véhicules électrifiés chez Fiat, chez Peugeot, chez Jeep qui permettent à Stellantis de tirer son épingle du jeu dans un contexte, je le répète, qui est particulièrement difficile. Franchement, bravo, et nous on aime bien ce titre, et il était extrêmement bas, c'est quand même pas illogique qu'il rebondisse, parce que sur les niveaux de 11, on est sur les niveaux de PER très bas, et Stellantis montre encore que son patron est aux commandes, et dans ce cadre-là, il fait le boulot.
Avec le marché qui achète la nouvelle aujourd'hui, plus 4,5% pour ce titre Stellantis à 13,50 €. Et puis, il y avait des interrogations également sur Kering, avec le ralentissement avec la Chine, hein, bien entendu, avec malheureusement la Chine qui se retrouve confrontée à l'épidémie. Ça pèse un petit peu sur les résultats de Kering, mais dans le même temps, on a Saint-Laurent qui affiche une croissance impressionnante au deuxième trimestre.
Oui, c'est ça. On a Saint-Laurent et Balenciaga qui s'en sortent très bien. Gucci est plus à la peine parce qu'ils sont très exposés sur la Chine. Mais le titre était très en retard. Hein. Quand on regarde le comportement de Kering par rapport à Hermès et LVMH, il y a quand même une grosse différence. Alors, vous voyez, depuis le 5 juillet, qui est le bas de marché, depuis le 5 juillet, on a en relatif marché Hermès qui monte de 5,74 Kering, qui est en train de rattraper, qui monte de 5,53 grâce à sa hausse de 3,47 aujourd'hui, et LVMH qui monte de 5% par rapport au marché aussi. Et en revanche, quand on regarde depuis le début d'année, on a un Kering qui est à moins 10 versus un LVMH qui est en ligne avec le marché, avec la performance du CAC 40. Donc on a un Kering qui est pas cher historiquement, qui finalement arrive à faire émerger des marques, et avec la reprise en fait de l'activité en Chine, il y a quand même quelques espoirs que Kering sorte son épingle du jeu. Donc il rebondit et c'est bien logique. Je crois qu'on était sur des bas niveaux et des craintes et des rachats de short.
Et une valeur qui devenait limite une valeur de rendement. Hein. Encore là, on est sur un rendement de plus de 2% sur une valeur de croissance, une valeur du luxe, c'est quand même assez inhabituel.
Oui. Enfin, encore une fois, les valeurs du luxe s'en sortent bien d'une manière générale et elle était très en retard. Donc, je ne sais pas si c'est le rendement qui intéresse les investisseurs, mais je crois que c'est plutôt les perspectives de reprise d'activité en Chine maintenant que ça réouvre. Et puis, le fait que d'autres marques commencent à tirer leur épingle du jeu, ça, je crois que c'est ça qui est important.
Et donc, ce titre Kering qui gagne 3,5%, 546 €, ça se passe bien également pour Unibail-Rodamco Westfield qui a publié ses résultats semestriels avec un titre qui gagne 2,7% à 53,81 €. Et à l'inverse, c'est compliqué pour le secteur de la distribution. Hein. Carrefour qui a dévoilé hier soir ses résultats semestriels, un contexte d'inflation, un contexte également très concurrentiel dans la grande distribution. Et là, ce titre qui est sanctionné aujourd'hui, moins 3% pour Carrefour à 16,66 €.
Oui, alors là, on a toujours les hyper qui sont compliqués. Hein. Quand on regarde les hyper France, on est à moins 0,5. C'est l'Amérique latine et le Brésil qui s'en sortent bien. Bon, ils confirment leurs objectifs de free cash flow. Ils confirment le fait qu'il y aura 1 milliard d'économies de coûts en cette année. Donc, on est sur une entreprise qui avait plutôt bien fait depuis le début de l'année. On a des chiffres qui montrent que le secteur reste très difficile. Et puis, on a un secteur qui a été très attaqué aussi avec Walmart. Hein. On le sait bien. Donc, moi, je crois que c'est plutôt à mettre sur le compte des prises de bénéfices que de mauvaises nouvelles.
D'accord. Et donc, ce titre Carrefour qui est vendu aujourd'hui, il nous reste un peu plus d'une minute. Là, Eric, si on devait aborder une valeur parmi l'ensemble des valeurs qui ont publié leurs résultats aujourd'hui, quelle est la valeur que vous souhaitez aborder?
Moi, je mentionnerai Air Liquide, on en parle relativement peu effectivement, mais je trouvais qu'aujourd'hui Air Liquide était intéressante parce qu'on a ouvert flat, on est descendu de quasiment à 40% à 127 €, puis maintenant on est à 131. Air Liquide démérite pas, il dégage un bon résultat opérationnel avec 2,3 milliards au premier semestre, en hausse de 17,4% à 9% d'amélioration à données comparables. Donc c'est une belle marge hein, en hausse de 2 points. Voilà, on est sur des bonnes publications et des bonnes perspectives. Mais le titre baissait, en fait, il y avait des prises de bénéfices. Et je pense que on est sur des problématiques de ralentissement économique où on se demande si des titres qui ont bien performé jusqu'à maintenant, qui ont bien tenu, finalement, dans le secteur industriel, vont être touchés par cette récession. Et donc, on a ces hésitations. On commence par un titre qui a un peu reflué quand même depuis le début de l'année, mais pas tant que ça. On a des prises de bénéfices sur des publications qui sont bonnes, et puis finalement des gens qui disent « mais non, mais pas très solide ». Et voilà, c'est l'hésitation du marché en ce moment, je crois que c'est ça. Hein. Est-ce qu'on est en récession? À quel point elle sera forte? Et en fonction du moment, des publications macroéconomiques, on a des gens qui sortent et d'autres qui rentrent, et ça fait des grosses variations, même pour des titres très peu volatiles comme Air Liquide.
Et ce titre Air Liquide qui s'est donc retourné en cours de séance, désormais il gagne 1,7%, 131 €. Merci beaucoup Eric d'avoir éclairé aujourd'hui nos auditeurs, téléspectateurs sur ces publications d'entreprise, hein, sachant qu'on parle de titres qui sont massivement détenus par les particuliers, que ce soit Airbus, Air Liquide ou encore notamment Schneider Electric. Je rappelle que vous êtes directeur général de Swiss Life, banque privée. On retrouvera vos équipes dans un peu plus de 2 heures après le fixing à la Bourse de Paris pour revenir également sur les nombreuses publications d'entreprise. Tout de suite, on va regarder ce qui se passe aux États-Unis, contraction ou pas, on en parle avec Gilles Mouic.
BFM Business, BFM Bourse, l'écho du monde en direct.
Gilles Mouec, chef économiste du groupe AXA, qui nous accompagne par téléphone. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Bonjour. On va revenir avec vous sur notamment cette nouvelle qui est tombée il y a 3 quarts d'heure maintenant, avec la croissance au deuxième trimestre qui n'est pas là, qui n'est pas présente. C'est-à-dire qu'on a une contraction de l'activité au deuxième trimestre contre toute attente, hein, puisqu'on a un consensus qui s'attendait à plus 0,5 et finalement c'est moins 0,9. Deuxième trimestre consécutif dans le rouge aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une récession, Gilles Mouec, aux États-Unis aujourd'hui?
Alors, tout dépend de la définition qu'on en donne. Si on utilise la définition technique habituelle, deux trimestres consécutifs de contraction du PIB, oui, il y a une récession technique. Mais les Américains utilisent en général une autre approche, l'approche du NBER, qui est en, pour aller vite, un conseil d'experts et d'académiques qui se prononce sur l'existence ou non d'une récession, non pas simplement à partir d'une analyse technique des comptes nationaux, mais en prenant en compte ce qui peut se passer sur le marché du travail et sur les sources en fait de la contraction du PIB. Donc selon l'approche du NBER, on n'est sans doute pas aujourd'hui, ou enfin en tout cas au deuxième trimestre 2022 en situation de récession. On y sera sans doute à un moment ou à un autre dans la seconde partie de l'année. Parce que je donnerais plutôt raison à l'approche NBER en l'espèce, parce que même s'il y a des éléments qui sont intrinsèquement inquiétants dans ce PIB du deuxième trimestre, on y reviendra je pense, il y a quand même eu énormément d'éléments techniques au premier et au deuxième trimestre qui rendent l'analyse un peu malaisée. Il y a eu une très forte dégradation des comptes extérieurs au premier trimestre qui a beaucoup pesé sur le PIB, et ça c'était lié à des effets de rattrapage sur les importations avec la réouverture des économies. Et là ce que l'on a, c'est une très forte contraction des stocks, probablement en conséquence du premier élément, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup importé au premier trimestre, on a délesté les stocks au second. Donc il y a beaucoup d'éléments techniques derrière cette contraction du PIB pour la deuxième fois au T2, mais si on regarde des éléments comme la consommation des ménages, on s'aperçoit quand même qu'il y a un vrai effritement. Donc réponse directe à votre question, on n'était sans doute pas en récession au deuxième trimestre, mais les ingrédients s'accumulent pour qu'on y soit dans la seconde partie de l'année.
Il faut dire que c'était pas attendu, hein, car quand on regarde les chiffres du consensus, on était aux alentours de plus 0,5. Donc on a des analystes, des économistes qui s'attendaient à un rebond de la croissance au deuxième trimestre, et finalement c'est pas le cas. Donc c'est vraiment ces éléments techniques qui ont pesé sur les données.
Vous avez une contribution négative à la croissance des variations de stock de 2 points, ce qui est énorme. Alors on a eu des stocks extrêmement volatiles depuis quelques trimestres, en fait depuis le début de la pandémie. C'est sans doute le composant du PIB qui a le plus bougé. Et les stocks, je ne voudrais pas faire mon ancien combattant ici, mais voilà, ça fait malheureusement très longtemps que je fais ce métier, et prévoir au trimestre près la variation des stocks, c'est quasiment impossible. C'est une valeur traitée souvent de manière résiduelle en fait par des comptables nationaux. Lorsque vous avez des mouvements de ce type-là sur les stocks, et bien voilà, prévoir le PIB devient presque impossible. Donc voilà, les analystes se sont en général trompés, mais en l'espèce, c'était une erreur probablement inévitable.
Et c'est dans ce contexte que hier soir la Fed, la Banque centrale américaine, a communiqué avec donc une nouvelle hausse de taux de 75 points de base, comme l'attendait le consensus ces derniers jours. Et un marché qui hier soir a acheté la nouvelle, même si au final on avait une Fed qui était un peu dure quand même, mais au final qui dit au fur et à mesure on va commencer à réduire un petit peu la cadence. C'est ça au final ?
Il y a une expression anglaise que je n'arrive jamais à traduire en français, qui est le phénomène de bouger la taille des buts, hein, comme si au foot on bougeait constamment la dimension du but. Et là c'est un peu la même chose avec les hausses de taux des banques centrales, parce qu'en fait on est en train de s'habituer à des hausses de taux extrêmement fortes. On a vu par exemple cette augmentation des taux de 200 points de base par la Banque du Canada, et donc alors que 75 points de base a l'air d'être, et c'est historiquement un niveau très élevé pour un budget de politique monétaire, et bien ça paraissait un peu palichon par rapport au mouvement très fort qu'on avait eu du côté canadien. Donc je pense qu'il y a un effet soulagement de la part du marché. La Fed fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait, puisqu'elle avait communiqué de manière très claire sur 75 points de base. Donc pas de surprise à la hausse, pas d'imitation de ce que les Canadiens ont fait. Donc ça en soi c'est une bonne nouvelle. Et puis le deuxième élément, c'est que effectivement, si la Fed reste quand même assez droit dans ses bottes, hein, sur l'analyse de la situation, il reste très inquiet de la situation de l'inflation, il continue à penser qu'il faudra poursuivre le mouvement de durcissement de la politique monétaire, et bien même si Powell n'a pas été très prolixe en détail sur les mouvements à attendre à la rentrée, on sent que la Fed s'achemine vers des hausses de taux plutôt plus faibles dans le futur. Nous, on s'attend à 50 points de base au mois de septembre, et avec une distribution des risques autour de ces 50 points de base, plutôt vers 25 BP que vers 75, parce qu'on a quand même des signes de ralentissement qui sont très manifestes dans l'économie américaine. Donc voilà, c'est sans doute ça que le marché a salué. Mais attention, pour qu'on y arrive, c'est-à-dire pour que la Fed cesse de remonter ses taux d'une manière forte, il faut d'abord accepter une détérioration supplémentaire de l'activité économique. C'est-à-dire que le message qui est envoyé par la Fed, c'est que certes, on s'aperçoit que l'activité commence à décliner, la consommation en particulier est de plus en plus faible, mais l'indicateur que la Fed suivra, au-delà de l'indice des prix à la consommation, c'est le marché du travail. Or, pour l'instant, sur le marché du travail, même s'il y a une légère hausse des inscriptions à l'assurance chômage, on n'est pas dans une situation de détérioration très forte. On verra où on en est. On a un indicateur important qui sortira la semaine prochaine. Mais voilà, pour que la Fed effectivement réduise la voilure, il faut d'abord, malheureusement, passer par une phase de purge sur le marché du travail qui peut être extraordinairement pénible, évidemment.
Avec quand même un numéro d'équilibriste très compliqué pour Jérôme Powell, parce que d'un côté, il veut ralentir l'économie, et de l'autre, hier soir, il dit « nous n'essayons pas de provoquer une récession ».
Oui, alors c'est tout le débat, même si la Fed a déjà dit plusieurs fois que eh bien si une récession s'avérait nécessaire pour contrôler l'inflation, eh bien soit, on le ferait. Mais il y a tout un pan d'analyse de la Fed selon lequel, en fait, on pourrait éviter de passer dans la phase récessive, c'est-à-dire qu'on arriverait à une espèce de situation absolument optimale où le marché du travail ralentit suffisamment pour que les salaires eux-mêmes ralentissent et que donc l'inflation sous-jacente commence à décélérer sans avoir à détruire trop d'emplois et donc sans avoir à passer par la case récession. Et donc c'est cette espèce de situation optimale que la Fed poursuit. Cela étant, lorsqu'on regarde vraiment les toutes dernières données, par exemple les indicateurs, l'indice PMI qui est sorti la semaine dernière, on est en train de se diriger droit vers une vraie récession. Donc cette situation optimale de la Fed, on comprend tous que ce soit ce que l'on souhaite, mais à la lumière des toutes dernières données, ça va être difficile d'arriver à cet atterrissage en douceur.
Merci beaucoup Gilles Mouek, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui par téléphone afin de nous éclairer sur la situation aux États-Unis. Je rappelle que vous êtes chef économiste du groupe AXA. 15h22, tout de suite on parle d'immobilier.
BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO.
La carte IMO aujourd'hui est Gaël Thomas qui nous accompagne. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Merci de nous accompagner aujourd'hui, rédacteur en chef de Business IMO. Avec vous, on va faire un peu un point là sur la situation sur le marché immobilier dans un contexte de hausse des taux. On venait d'en parler à l'instant avec donc les banques centrales qui relèvent leurs taux. Forcément, ça a un impact sur les conditions de financement, des conditions de financement qui se durcissent de plus en plus quand même.
Ouais, tout à fait. Là, on va parler du financement auprès des professionnels. Pour les particuliers, il y avait déjà des tensions qui étaient avant la remontée des taux et qui continue. Aujourd'hui, très clairement, la BCE qui met plus 50 points de base, c'est la première fois qu'elle relève ses taux depuis 11 ans. Donc il y avait une forme, le marché s'était habitué à avoir l'argent gratuit, ça s'est terminé. On a parlé sur la Fed qui a annoncé hier sa quatrième hausse depuis le mois de mars, et visiblement c'est pas terminé. Ce que regardent les professionnels, notamment en immobilier d'entreprise, ils regardent le taux swap à 5 ans. C'est un indicateur qui correspond grosso modo à la majorité des contrats de refinancement. Il était à zéro il y a 6 mois. Il est monté jusqu'à 2,3. Il est à peu près autour de 1% en France. Il est quasiment 3% aux États-Unis. Et ça va avoir des impacts au moment du refinancement. D'abord, la hausse des marges des banquiers. Donc, grosso modo, ça coûte beaucoup plus cher d'emprunter. Il va avoir aussi un phénomène qu'on commence à voir sur une baisse de la quotité des prêts, des ratios de LTV, de loan to value, donc le prêt sur la valeur. Et on voit bien que dans les conditions de financement, grosso modo, pour les professionnels, on va passer de 1 à 1,5, ce qui était à peu près la norme, à 3, 3,5. Du coup, c'est pas tout à fait la même musique quand on achète les actifs. Et on voit bien que les dégradations des conditions financières obèrent un petit peu votre levier qu'apportait la dette. Et ça va peser notamment sur la prime de risque.
Oui, la prime de risque. À chaque fois, c'est les éléments que l'on regarde pour un petit peu simuler, voir comment ça va se comporter l'investissement.
Tout à fait. Ce qu'on compare dans l'immobilier entreprise, on compare grosso modo le taux de rendement des bureaux prime à Paris avec l'OAT 10 ans. On estime que les bureaux prime à Paris, c'est l'actif le moins risqué.
Quand vous dites prime, hein, si on veut juste...
Prime, c'est moins risqué. C'est-à-dire que vous avez un immeuble qui est loué grosso modo 6 ou 9 en ferme à un locataire d'une bonne signature et vous êtes dans Paris, il y aura toujours une valeur résiduelle. Donc c'est vraiment l'actif immobilier a priori sans risque. Et vous le comparez à une valeur mobilière sans risque, c'est l'OAT 10 ans. Donc d'habitude, on avait avant ces durcissements des conditions financement, 250 points de base de spread, de différence entre le rendement immobilier et l'OAT 10 ans. On est passé en 6 mois à 75 points de base. Ça a totalement réduit, ce qui est normal, c'est un phénomène quasi mécanique. Et si on regarde sur la moyenne, sur les 10 ans, c'était autour de 130 points de base. Donc c'est pas totalement déconnant, mais on voit bien que la prime de risque a fortement chuté. Qu'est-ce qui va se passer pour un investisseur institutionnel ? Bah, soit je change de classe d'actifs, je vais vers des actifs moins liquides, je mets peut-être un peu plus de temps à vendre, et donc du coup je peux jouer sur le taux de rendement et le taux de capitalisation un peu plus fort, je change mon profil de risque, je vais vers sur des actifs plus risqués, donc dans l'immobilier c'est je quitte le corps, aucun risque, pour aller vers du corpus, où j'ai un petit peu de valeur ajoutée sur les loyers, ou sur la durée du temps du bail, ou sur du value-add, où je vais prendre encore un petit peu plus de risques parce que je dois intégrer des capex, je dois intégrer des travaux, etc. Ou alors, ce que je fais, c'est que moi, acheteur, je demande au vendeur, j'achète sur une autre base de taux de capitalisation, donc je demande, grosso modo, une baisse des prix.
Ouais, et c'est là-dessus que ça se joue, j'imagine. Parce que tout d'un coup, la modélisation change totalement. Est-ce que ça a un impact sur le prix des actifs, sur le prix de l'immobilier ?
Alors, ça se voit pas tout de suite, mais on essaie de le modéliser. Il y a Bloomberg qui avait sorti une étude qui parlait d'une chute potentielle de 30% de la valeur vénale des bureaux parisiens si on maintient, grosso modo, la prime de risque autour de 250 points de base. Si vous montez, et dans leur hypothèse, il y avait une augmentation de 160 points de base des taux d'intérêt. À la fin de l'année. Grosso modo, voilà, ça vous coûte, voilà ce que ça va vous coûter. Et ça intégrait également un scénario où il y avait 10% d'inflation de loyer. Donc vous voyez, si on projette mathématiquement, il y a une baisse des valeurs. Les brokers, les conseils, tous ceux qui tournent autour du marché parlent d'un repricing entre -15 et -30%. C'est ce qu'ils attendent. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans les résultats semestriels des foncières cotées, notamment celles qui sont sur le bureau parisien, qui ont des croissances de valeurs vénales, qui ont des croissances de valeurs locatives. Donc aujourd'hui, le repricing attendu par les acheteurs, on ne l'a pas du côté des vendeurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça impacte un tout petit peu le volume d'engagement et le marché de l'investissement.
Parce que les loyers ne baissent pas aussi, dans le même temps.
Ah, les loyers, ils augmentent, en fait. Puisque les loyers, ils sont indexés. Ben on voilà. dit toujours que l'immobilier est un hedge par rapport à l'inflation, et protecteur par rapport à l'inflation. L'ILAT, l'indice de loyer des activités tertiaires, sur lequel est inflaté les loyers de bureaux, a fait 5% au premier trimestre. La question, c'est de savoir si votre loyer, vous pouvez le répercuter sur votre locataire. Quand vous êtes dans le centre de Paris, il n'y a pas de souci. On atteint aujourd'hui des loyers top autour de 900 euros et on tangente même les 1000 euros du mètre carré. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a une forte demande et il n'y a pas d'offre. C'est juste la loi du marché qui veut ça. C'est un tout petit peu plus problématique quand vous allez en périphérie ou quand vous allez sur des marchés dits secondaires où là vous avez abondance d'offres et pas énormément de demandes. Donc on a toujours un rapport là-dessus. Donc sur le papier, une indexation de loyer, il n'y a pas de souci. Après, c'est simplement la solidité financière de votre locataire. Est-ce qu'il est capable de supporter une hausse de loyer ou pas ? Et si on rentre dans un schéma de récession économique, comme certains spécialistes nous le disent, va se poser des questions aujourd'hui sur la marge des entreprises de payer le loyer.
Ouais, c'est toujours compliqué de faire des prévisions, surtout qu'on voit très bien que les données macroéconomiques changent tout le temps et même le consensus change quasiment toutes les semaines. Mais est-ce qu'on est sur un nouveau cycle immobilier ? Est-ce que là, c'est un game changer là ? Est-ce que ça va changer totalement ? Après, on n'a pas parlé des usages avec le télétravail, etc. Mais uniquement, là, si on regarde les indicateurs.
Moi, je pense qu'on est sur un nouveau cycle immobilier. Pendant un peu plus de 10 ans, depuis, grosso modo, la crise de Lehman Brothers, on s'était habitué à voir le moteur de la performance financière qui faisait tourner tout seul votre actif. Grosso modo, pour perdre de l'argent dans l'immobilier de bureau à Paris, je reste circonscrit sur le bureau à Paris, pour perdre de l'argent sur les 10 dernières années, il fallait le vouloir. Vous ne faites rien, vous faites simplement tourner votre tableur Excel et grosso modo, vous gagnez de l'argent. Là, ce moteur, il est en train de s'éteindre. Tout simplement parce que les coûts de financement, parce que les hausses de taux d'intérêt sont en train de jouer. Donc ce moteur de la performance financière, il s'éteint. Le moteur de la performance opérationnelle, c'est-à-dire remplir vos immeubles, trouver des bons locataires, avoir la bonne localisation, faire rentrer les cash flows, Celui-là, il est en train de s'activer. Vous avez l'inflation qui va vous aider, mais il va avoir aussi le talent des asset managers pour essayer de trouver les bons locataires, de l'investment manager pour trouver le bon actif, le bon immeuble qui correspond aux nouveaux usages. Vous avez parlé du télétravail. Aujourd'hui, il y a un phénomène de centralité. Tout le monde veut être au centre de Paris. Plus personne ne veut travailler 5 jours. Ouais. Du lundi au vendredi, je vous parle pas si on leur demande de venir le samedi ou le dimanche. Bref, donc tout ça, il faut s'y habituer. On est vraiment en train de changer, en tout cas sur l'immobilier de bureau.
Bah merci de nous parler de ces changements, en tout cas. Merci beaucoup Gaël Thomas, rédacteur en chef de Business Immo. Faire un point quand même sur la situation et aussi sur les répercussions des hausses de taux. Hein. C'est un exemple concret des répercussions des hausses de taux et aussi du changement du secteur immobilier. Quasiment 15h30. On se retrouve dans un instant après une très courte pause. On retrouvera Sabrina Cogliozzi qui nous attend depuis New York pour l'ouverture de la bourse aux États-Unis. À tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Étienne Brack.
15h32, on est un petit peu en retard. On va retrouver Sabrina Cogliozzi qui nous attend à New York pour l'ouverture de la bourse aux États-Unis. Après une très belle séance, notamment pour le Nasdaq qui gagnait 4% hier, le rebond se poursuit, Sabrina, aux États-Unis.
Oui, après une très très belle hausse, oui, vous l'avez dit, hein, 4% de progression sur l'indice Nasdaq. On n'avait pas vu ça depuis très très longtemps, dans le sillage bien sûr de la réunion de la réserve fédérale américaine, avec cette hausse de 75 points de base, deuxième d'affilée, pour combattre l'inflation, mais une Fed qui s'est montrée aussi moins agressive. En tout cas, Jérôme Powell a laissé la porte ouverte, hein, à un ralentissement du rythme de ces hausses de taux selon les données. Et on en a eu une aujourd'hui. Le PIB, contraction du PIB pour le deuxième trimestre d'affilée. Une contraction de 0,9% deuxième trimestre contre une contraction d'1,6% sur le premier trimestre. L'inflation, bien sûr, hausse de taux, intensification des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement. Tout ça a pesé, bien sûr, sur le trimestre écoulé. Pour de nombreux intervenants de marché, deux trimestres d'affilée de contraction, c'est un signal fort que l'économie est en récession. C'est plus nuancé, nous dit l'arbitre américain des récessions, le Bureau national de la recherche économique, hein, qui décide officiellement si l'économie américaine est entrée en récession ou non. Cet institut nous dit qu'ils ont besoin de facteurs supplémentaires pour prendre leur décision. Donc bon, deux trimestres d'affilée de récession, en tout cas pour le marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire une Fed qui sera moins agressive, et c'est ce qui porte la tendance aujourd'hui. Après encore une fois avoir enregistré de très belles hausses hier, le Dow Jones prend 0,2%, le S&P 500 plus 0,2%, le Nasdaq de son côté affiche un gain de 0,2%, avec bien sûr des résultats d'entreprise très rapidement. Meta, c'était le grand rendez-vous hier soir après la clôture, grosse déception, des chiffres inférieurs aux attentes, première baisse du chiffre d'affaires de l'histoire de Facebook, Meta, le groupe qui a été pénalisé par toute une série de facteurs. Si on regarde la division en réalité virtuelle, eh bien là, on a perdu 2,8 milliards de dollars sur le trimestre écoulé. Le plus gros problème dans l'immédiat, ce sont bien sûr les revenus publicitaires comme Snap, comme Twitter. Eh bien là, Meta a indiqué que le ralentissement de l'économie pèse sur ses activités pub. Le titre Meta est en forte baisse, donc à l'ouverture moins 7%. On a eu en attendant bien sûr Apple ou encore Amazon ce soir. On a eu aussi, dans un tout autre secteur, Ford qui a publié ses résultats trimestriels. Et bien là, c'est supérieur aux attentes. Et le titre en profite largement, plus 4,1% à l'ouverture. Et on termine rapidement avec l'aérien aujourd'hui. JetBlue qui annonce le rachat de Spirit Airlines pour 3,8 milliards de dollars afin de créer le numéro 5 du secteur aux États-Unis. Une victoire clairement pour JetBlue qui a donc empêché son rival Frontier de mettre la main sur Spirit. Cet accord va devoir bien sûr être approuvé par les autorités. Ça va être assez compliqué selon les intervenants, mais en tout cas pour le moment, réaction sur les titres concernés. Spirit Airlines prend 2,9% et JetBlue de son côté cède 0,4%. Dans une tendance donc positive, le Dow Jones prend 0,15% et tient le S&P 500 plus 0,3% et l'indice Nasdaq plus 0,15%.
Et donc les marchés américains qui font preuve de résilience malgré une contraction de l'activité au deuxième trimestre et ça dope également depuis l'ouverture de Wall Street les indices en Europe avec désormais la Bourse de Paris qui gagne 0,7% qui, ça y est, vient de franchir les 6330 points. Vous avez également une tendance positive du côté de l'Eurostock 50 plus 0,8% à 3645 points et le DAX également à Francfort qui gagne plus de 0,6%. Tout de suite, on va regarder les publications d'entreprise.
BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché.
Avec Frédéric Rosier qui nous attend aujourd'hui depuis Mirabeau où il en est gérant. Bonjour et bienvenue Frédéric.
Bonjour Étienne.
Merci de nous accompagner aujourd'hui dans cette journée très riche en termes de publications. C'est la plus grosse journée de la semaine en Europe mais aussi aux États-Unis. Comme Sabrina le disait, on attend notamment les résultats d'Apple ce soir. Quelle séance quand même avec pour l'instant des marchés qui font preuve de résilience et des publications dans l'ensemble qui sont bien intégrées. Si on doit faire un petit résumé là sur les publications de ces dernières heures.
Oui, entre l'Europe et les États-Unis, je regarde un peu dans mon périmètre, j'ai 70 publications aujourd'hui. Donc ça vous montre un peu l'ampleur de ces chiffres. Ce qui est très intéressant, plus de 60% des publications sont au-dessus des attentes. On doit avoir à peu près 20% qui sont en ligne et quelques déceptions. Donc c'est quand même, on est parti pour une saison de résultats quand même largement satisfaisante avec des bons indicateurs en Europe et notamment les sociétés qui sont exposées en dollars. On voit les effets extrêmement positifs de la parité euro-dollar sur le chiffre d'affaires et sur la rentabilité opérationnelle des groupes qui ont publié. Certains indicateurs aussi montrent qu'il y a un petit peu moins de pression pour certains. Je pense notamment dans le secteur automobile, sur les semi-conducteurs, puisqu'on a aussi la publication de Volkswagen qui fait état, pas d'une normalisation, mais en tout cas un peu moins de pression. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs positifs. Vous l'avez peut-être pas noté aussi, il y a au-delà du PIB. Après, on peut dire effectivement récession ou pas. On le saura plus tard, mais on a des indications concernant le core PCE, les indicateurs d'inflation qui sont en forte baisse aux États-Unis. Donc on voit, et c'était le discours aussi qui a été martelé par la Réserve fédérale. On a peut-être effectivement un ralentissement aux États-Unis et peut-être une pression inflationniste un peu moins importante dans les mois à venir qui explique ce mouvement qu'on a eu notamment sur les secteurs de croissance avec la Nasdaq qui a progressé 4% hier.
Si on veut regarder quelques publications en détail, on peut bien sûr parler de Total. C'est la publication qui fait même polémique, on peut dire. Total Energy qui a aujourd'hui dévoilé des résultats assez impressionnants avec un résultat net de quasiment 10 milliards de dollars au premier semestre. C'était intégré pour que le titre baisse de 1,8% aujourd'hui ?
Alors en partie oui, c'était intégré. La déception regarde ce résultat puisque effectivement en gros à un semestre ils font le résultat de l'année dernière, donc ils sont vraiment sur une dynamique assez forte avec, c'est vrai, une référence de Brent qui est quasiment 50% plus élevée que l'année dernière à la même époque. Mais il y a une petite déception effectivement, c'est on s'attendait peut-être à un geste concernant le dividende. C'est peut-être là éventuellement du share buyback, mais en tout cas il y a une déception de ce côté-là. Après, les résultats sont vraiment de bonne facture. On voit notamment ces résultats tirés par le raffinage qui a été multiplié par 5. Donc c'est vraiment l'activité aujourd'hui la plus rentable du groupe. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment intégrées par le groupe. Mais voyez, c'est globalement des résultats en ligne. Et aujourd'hui, on en veut un petit peu plus, notamment par rapport à des groupes qui ont plutôt performé sur le marché. Donc la déception, elle se fait parce qu'il n'y a pas d'effet de surprise finalement. Voilà, on n'a pas de rachat, de share buyback supplémentaire, on n'a pas de dividende supplémentaire. Donc voilà, c'est là-dessus que se fait la déception.
Et Patrick Pouyanné qui prévoit, on le rappelle, 7 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année en termes de rachat d'actions. Au final, ça donnera environ 15 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année, dividendes plus rachat d'actions. Oui. Mais ce titre qui est en baisse de 1,9%, 48,81 €. À l'inverse, les groupes qui surprennent à la hausse, alors là, on a une réaction très impressionnante sur le marché. C'est le cas notamment de Stellantis qui gagne plus de 5% aujourd'hui, 13,59 € avec des marges qui sont quand même très impressionnantes pour le secteur automobile.
Oui, c'est un peu le symbole de l'électrification. Les marges globalement montent de plus en plus. Donc on était sur un consensus sur les marges à légèrement en dessous de 12%. on est à 14%, et c'est des marges qui sont tirées notamment par l'activité nord-américaine. Donc effectivement, c'est une publication incroyable, avec un EBIT sur le semestre à 12 milliards, un peu plus de 12 milliards, on s'attendait à 10, hein, donc vous voyez, l'effet de surprise est quand même relativement important. Ce qui est encore plus important dans un secteur qu'on pensait peut-être un petit peu sous pression, c'est ce qu'on appelle la génération de free cash flow. On est à plus de 5 milliards, on attendait un peu moins de 4, ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation bilancielle de Stellantis est incroyablement favorable. Il y a énormément d'argent aujourd'hui dans les caisses de Stellantis, une position relativement forte, avec un marché extrêmement dynamique, c'est le marché américain, en tout cas en relatif par rapport aux autres marchés, et c'est peut-être ça sa force, hein. C'est quelque part une exposition géographique largement diversifiée.
Et donc ce titre qui est en hausse aujourd'hui, plus 5%, 13,58€, et un titre qui fait encore mieux et qui est aujourd'hui en tête de l'indice parisien, c'est Schneider Electric, un titre qui a été chahuté depuis le début de l'année, et ce titre qui gagne plus de 5,5%, 133€.
Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, Étienne, on a parlé lundi dans le cadre du portefeuille ESG, et j'avais dit toute ma confiance sur la publication de Schneider, parce que effectivement on coche toutes les cases. On est exposé aux États-Unis, relativement important, donc ça vend de l'art. C'est sur l'efficience énergétique, au moment où on voit des directives gouvernementales pour réduire la consommation d'énergie. Il y a un acteur aujourd'hui incontournable, c'est Schneider, et la croissance organique, c'est plus de 10%, largement au-dessus du consensus. Là aussi, les marges, on arrive sur des marges records à plus de 17%, là aussi largement 35 points de base au-dessus du consensus. Génération de free cash flow peut-être un peu légère, mais relativement robuste tout de même. Les guidance surtout, c'est ce qui explique aussi le mouvement, les guidance ont été relevés. Aujourd'hui, on vit une croissance organique entre 9 et 11%, alors qu'auparavant, avant la publication, on attendait entre 7 et 9. Donc voilà, on a vraiment une publication de très très bonne qualité. C'est un titre qui avait souffert, donc il y a encore des opportunités de venir s'intéresser à ce titre. Et on est vraiment, je répète, sur une thématique ESG, une thématique qui est porteuse pour les années à venir, avec un très très bon management et surtout une rentabilité qui est franchement assez incroyable dans un secteur aussi industriel. Donc voilà, très 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 bonne publication pour Schneider.
Parmi les autres titres que l'on doit retenir aujourd'hui, malheureusement, on peut pas parler de toutes les publications. Il y a Airbus, il y a Kering, oui. Il y a Saint-Gobain, Téléperformance, Orange. S'il fallait en retenir une autre aujourd'hui, selon vous, Frédéric?
Alors, peut-être Airbus. Là aussi, c'est une publication qui semble, somme toute, mitigée avec... c'est pas tant la publication, c'est plutôt les objectifs de livraison qui sont décevants. On attendait 720 appareils, on abaisse ce niveau de livraison à 700. Donc voilà, c'est une pression sur ce qu'on appelle la supply chain, la chaîne d'approvisionnement. Donc on voit que c'est difficile aussi dans le secteur aéronautique. On pensait qu'Airbus avait mis la pression justement sur ses équipementiers pour maintenir la cadence avec ce taux de livraison relativement important, notamment sur la 320, qui est le programme phare d'Airbus. Mais on voit que ça bloque un petit peu. C'est un peu les mêmes problèmes qu'on a connus dans le secteur automobile, mais à l'échelle aéronautique. Alors concernant l'exposition dollar, puisque c'est une question qu'on nous pose souvent, Airbus est dollar, bien sûr, est très sensible à la variation et à la faiblesse de l'euro. Il faut juste savoir que Airbus n'est pas exposé dollar, puisque l'intégralité est hedgée, couverte du risque de change. Donc il n'y a pas d'effet positif, hormis effectivement l'aspect concurrentiel par rapport à Boeing et cette baisse de l'euro qui est plutôt profitable. Mais ça n'a pas d'impact immédiat, en tout cas sur le résultat net.
Et ce titre qui est en baisse aujourd'hui, moins 3,8%, 102€. Merci beaucoup Frédéric.
Merci,
Frédéric Rosier, qui nous accompagnait aujourd'hui, gérant de portefeuille chez Mirabeau France. Et tout de suite, bien sûr, on va faire un point sur le marché obligataire, car là aussi, il y a du mouvement aujourd'hui.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et c'est Sébastien Barthélémy qui nous accompagne aujourd'hui par téléphone, responsable de la recherche crédit chez Kepler. Bonjour et bienvenue Sébastien.
Bonjour Étienne.
Merci de nous accompagner aujourd'hui, car oui, ça bouge sur le marché obligataire en l'espace d'une semaine, notamment sur les taux longs, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis. On a quand même des mouvements assez impressionnants.
Effectivement, les mouvements sont très impressionnants, et quand on se concentre vraiment sur la partie obligataire, le risque de refinancement pour les entreprises, Eh bien, là aussi, le mouvement est impressionnant et conjugué évidemment à la baisse des taux, ce qui était très positif pour les conditions de refinancement des entreprises. Regardez un petit peu, si on regarde l'indice iTrax Crossover, qui est l'indice qui permet de donner la coût de refinancement pour les entreprises les moins bien notées, eh bien, on est passé d'un plus haut qui était autour des 630 points de base à 540 points de base. Alors, c'est un très bon mouvement, c'est impressionnant en quelques jours de voir un resserrement de 100 BP, mais néanmoins, on reste quand même sur des niveaux élevés. Ça signifie que pour les entreprises, hein, les conditions de financement restent quand même tendues, notamment pour les crédits les moins bien notés.
Oui, notamment pour les entreprises, hein, on parle souvent de high yield, hein, donc dettes à haut rendement qui sont souvent des dettes sur des entreprises en difficulté. Comment ça se passe là sur ces dettes? Car si ça se détend sur les taux longs, sur les dettes les moins bien notées, c'est plus compliqué, non?
C'est toujours plus compliqué. Elles ont sous-performé hein, depuis le début de l'année. Comme je le disais, les conditions de financement restent très tendues. Vous avez un marché du primaire pour les émetteurs high yield qui s'est effondré, tout simplement. Si on regarde les volumes d'émissions depuis le début de l'année, ils sont en baisse. Sur le deuxième trimestre, c'est quasiment absent. Ce qui signifie que les fenêtres d'opportunité pour les émetteurs, pour la capacité de se refinancer, est pour l'instant fermée. Néanmoins, gardez à l'esprit quand même que les entreprises, qu'elles soient de qualité ou de moins bonne qualité, ont bénéficié les trimestres précédents, les années précédentes d'un environnement de taux bas. Elles ont pu financer et se refinancer également en 2020-2021, ce qui leur a permis de repousser la maturité de leur dette, la maturité moyenne de leur dette, ce qu'on appelle le mur de la dette. Et si on regarde pour les émetteurs à yield, le mur de la dette, eh bien, il a été repoussé jusqu'en 2025 et 2026. Ainsi, même si les conditions de refinancement sont tendues, on sait que le besoin de refinancement des émetteurs à yield est plutôt faible pour le prochain trimestre et pour les prochains mois.
Si on veut citer une entreprise emblématique, c'est bien sûr Casino, hein, le groupe de distribution qui détient notamment Monoprix, Franprix, etc. Avec des conditions de financement qui sont toujours très compliquées pour Casino face à la dette de l'entreprise qui est toujours très importante.
Effectivement, les conditions restent compliquées. Les résultats ont été publiés ce matin. D'un point de vue crédit, il y a quand même quelques signaux négatifs. Le signal, c'est que on voit que la position de liquidité continue à baisser. On a toujours une situation de cash burn. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement il y a la vente de Green Yellow qui va intervenir au Q4 2022 et apporter 600 millions d'euros de proceeds pour Casino. Donc c'est très bienvenu. Mais néanmoins, on voit deux éléments. D'abord, un, que la position de liquidité se tend. Le deuxième élément, c'est que le poussin de sécurité sur les covenants de ligne de crédit bancaire se tend également. Et les conséquences, eh bien, c'est que le marché du crédit n'a pas apprécié. Les obligations perdent actuellement entre 0,5 et 0,7 points. Pour vous donner une idée, une Casino 2026, eh bien, se traite très largement en dessous du pair, hein, se traite autour de 70, 72, ce qui représente un rendement à maturité de plus de 17%. Ça vous donne une idée de la situation tendue pour Casino.
Et ce titre Casino, alors si on regarde le titre coté en bourse, hein, l'action cette fois aujourd'hui, elle est quasiment stable après quand même une descente aux enfers ces dernières semaines, moins 0,5%. Merci beaucoup Sébastien Barthélémy, responsable de la recherche crédit chez Kepler. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur BFM Bourse. Tout de suite, on continue à vous donner des idées d'investissement et de thématiques.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Vos placements, nos conseils avec désormais Jean-Louis Delrault qui nous accompagne aujourd'hui, journaliste de la maison, hein, rédacteur en chef adjoint du site bfmbusiness.com. Merci de nous accompagner.
Bonjour,
aujourd'hui. Merci. Avec aujourd'hui, Jean-Louis, on va regarder un petit peu les résultats d'entreprise. Hein, c'est la saison, depuis quasiment une heure, on parle de ces résultats d'entreprise. Et vous avez regardé les résultats d'entreprise sur les sociétés que l'on connaît bien, les sociétés avec les abonnements plaisir, hein, si on veut résumer ça comme ça. Et quel est l'impact de l'inflation? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des changements d'habitude sur nos abonnements? C'est bien ça, hein?
Alors oui, tout à fait, parce que là, on se rapproche un petit peu du moment de vérité. Hein. Il n'a échappé à personne que l'inflation, ça y est, elle est installée, elle est là pour plusieurs mois et ça va certainement encore gonfler. Je vous rappelle hein, les dernières prévisions de la Banque de France pour l'année 2022, c'est 5,6% en moyenne sur toute l'année. Mais d'autres sont plus pessimistes. Hein. C'est Michel-Édouard Leclerc ce matin qui disait, lui, il s'attend pour cet hiver à des pics allant jusqu'à 8-9% d'inflation. Et donc, face à cette hausse des prix très importante, les ménages, ils n'ont pas 50 solutions. Il faut arbitrer. Et par exemple, vous repoussez les gros achats, comme l'achat d'une voiture. Mais vous coupez aussi dans tout ce qui n'est pas tellement indispensable, ce qui est un peu superflu, ce qui est un peu du plaisir. Et c'est, par exemple, ça peut être un abonnement pour la musique, pour des vidéos ou encore des livraisons le repas le soir. Ça coûte toujours moins cher de préparer ses repas soi-même. C'est tout ce qu'on va appeler les abonnements plaisir et puis plus globalement le secteur du divertissement et des loisirs. Et on avait déjà vu que ça commençait à tanguer, ça commençait un petit peu à coincer lors des résultats du premier trimestre pour certains acteurs et dans certains pays en particulier, par exemple au Royaume-Uni. Et là, c'est vrai que ça semble se confirmer.
Ça semble se confirmer avec une entreprise emblématique, c'est bien sûr Netflix.
Tout à fait, Netflix. Alors, ils ont quand même fait mieux que prévu, mais le mieux est quand même pas terrible parce que les analystes tablaient sur une fuite encore plus importante des abonnés et finalement, là, on parle de 1 million d'abonnés en moins sur le dernier trimestre. Il faut y ajouter les 200 000 abonnés en moins au premier trimestre. Donc, ça commence quand même à faire beaucoup. Surtout que, souvenez-vous, il y a encore quelques mois, quand on parlait de Netflix, c'était plutôt plusieurs millions d'abonnés en plus chaque trimestre. Donc là, on a vraiment changé de paradigme. D'ailleurs, ils n'avaient pas perdu ces derniers mois, ils n'avaient pas perdu d'abonnés depuis 2011, donc depuis plus de 10 ans. C'est vous dire le retournement. Et donc, en bourse, là, ça a plutôt été bien accueilli parce qu'ils s'attendaient à pire. Mais si on regarde, si on fait le bilan depuis le début de l'année, on est quand même à moins 60% pour Netflix. Et du côté de la concurrence, là, on n'a pas encore toutes les données. Il y a Disney, bien sûr, qui va publier ses résultats. Ça sera le 10 août prochain. Le groupe, lui aussi, est plutôt dans le creux de la vague. En bourse, l'action est à son plus bas depuis 2020. Et en fait, elle est de retour à ses niveaux de 2015 à peu près. Et depuis le début de l'année, Disney a perdu plus d'un tiers de sa valeur. Donc ça résiste un peu mieux que Netflix, mais c'est quand même pas dingue. Et en ce qui concerne Amazon aussi, qui a une partie qui est Amazon Prime avec des vidéos en streaming, etc. Et les résultats, c'est ce soir. Et ça va être particulièrement intéressant à regarder. Parce qu'en fait, le groupe est en train de tester ce qu'on appelle le pricing power. C'est sa capacité à augmenter ses prix, ses tarifs et à voir est-ce que les clients restent finalement. Le groupe de Jeff Bezos, là, il augmente ses tarifs un petit peu partout. Là, par exemple, en France, là, on l'a appris il y a quelques jours, ce sera 40% plus cher à la rentrée. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, etc., les gens se plaignent, les clients se plaignent. Bon, ça va rester moins cher que d'autres concurrents, mais on va voir. Voilà, est-ce que les gens vont vraiment garder ces abonnements? Et puis certainement, est-ce que les gens qui ont plusieurs abonnements, peut-être qu'ils vont en garder qu'un au lieu de deux ou deux au lieu de trois. Donc ça, c'est un petit peu ce qui va se jouer dans les mois qui viennent. Et ce soir, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, Amazon a déjà appliqué cette stratégie aux États-Unis avec des augmentations de tarifs. Et donc là, on va peut-être un peu plus le voir, vu que l'inflation est déjà élevée aux États-Unis. L'augmentation des prix a déjà eu lieu. Donc on va voir, est-ce que ça coince ou est-ce que les gens continuent de payer pour leur compte sur Amazon?
Réponse donc ce soir avec la publication des trimestriels d'Amazon. On a également Apple, Apple qui fait de plus en plus d'abonnements avec Apple Music. On y vient d'ailleurs avec la musique et Spotify, bien sûr, acteur bien connu dans le secteur de la musique. Qu'est-ce que ça donne du côté de Spotify?
Spotify, tout le monde a craigné un peu les chiffres de Spotify et finalement le leader mondial du streaming musical a publié de bons résultats hier. Ils ont même réussi à augmenter de 14% leur nombre d'abonnés payants sur un an, ce qui a été salué à Wall Street. Le titre a clôturé à plus 12% hier. Mais c'est pareil, il faut quand même relativiser ce rebond parce que c'est encore une fois un titre qui avait été massacré avant et on reste encore à moins de 50% de sa valeur du début d'année. Et si on regarde du côté de son concurrent français, Deezer, qui vient de s'introduire en bourse il y a quelques jours, c'était le 8 juillet de mémoire, en tout cas début juillet, le groupe a déjà perdu 40%.
C'était
en moins d'un
compliqué.
Mois.
Dès la première séance, on se souvient que c'était la cata.
Oui, déjà, dès la première séance, ils avaient été sanctionnés. Peut-être que le prix d'introduction était un peu élevé. Mais ça ne s'est pas franchement amélioré depuis. Et c'est vrai qu'ils sont aussi sous pression.
Alors, le secteur de la musique et puis il y a également les livraisons de repas. Ça, c'était le plein boom avec notamment la pandémie, les confinements, etc. Ça a dopé les livraisons de repas. Si on regarde ce qui se passe du côté de Deliveroo, notamment.
Deliveroo, c'est assez intéressant à noter, là, puisqu'ils viennent, il y a quelques jours, de faire un avertissement sur le résultat. Et donc là, c'est un problème de croissance. C'était des activités qui étaient en très forte croissance. Là, ça c'est quasiment stable, hein, c'est 2% au deuxième trimestre. Et donc le groupe a révisé à la baisse tous ses objectifs, hein, que ce soit de chiffre d'affaires ou de marge d'EBITDA. Alors ce sera toujours en croissance pour le chiffre d'affaires, mais plus bas. Ça n'a pas fait plonger l'action, mais c'est encore une fois, c'est un groupe qui avait été très sanctionné depuis le début de l'année, même avant la guerre en Ukraine. Et on est encore à moins 56%, j'ai regardé tout à l'heure, depuis janvier. Et pour son concurrent Just Eat Takeaway, qui lui aussi est coté à Londres, c'est encore pire. Hein, le groupe, c'est quasiment les deux tiers de sa valeur qui se sont évaporés depuis 6 mois.
Est-ce qu'on a d'autres entreprises cotées où on a un impact également sur cette inflation et la baisse de la conso?
Oui, tout à fait. On peut citer Maison du Monde, par exemple, hein, la chaîne d'ameublement, dont les ventes en fait plongent. Hein, ça c'est très bien jusqu'à février-mars, on va dire. Et depuis, là, c'est la dégringolade. Et le groupe avait fait un avertissement sur résultats assez vite après les résultats de son premier trimestre. Et là, ils ont publié leurs résultats pour les 6 premiers mois de l'année, ce matin. Donc les ventes ont baissé 5% sur le premier semestre. Et côté bénéfice, c'est encore pire. Hein, c'est quasiment moins 60% de résultats nets. Donc ils dégagent encore du bénéfice, mais c'est quand même beaucoup moins qu'avant. Alors là, effectivement, ça peut paraître bizarre, parce que le titre affiche une belle hausse, hein, aujourd'hui, 8%, malgré des résultats qui sont quand même pas terribles et un peu inquiétants. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont annoncé un très vaste programme de rachat d'actions, et donc forcément, ça fait monter les cours. Et on peut penser à d'autres secteurs aussi, c'est ça qui est intéressant à regarder en ce moment. Par exemple, l'hôtellerie-restauration, le tourisme. Et là, Accor a publié des résultats qui étaient plutôt bons. Ils ont retrouvé globalement leur niveau d'activité d'avant-crise. Donc c'est plutôt bien reparti. Mais là, les investisseurs sanctionnent un peu, on va dire, les perspectives. Et puis surtout, en Chine et en Asie, ça va pas tellement très bien. Et par exemple, pour vous donner un indicateur clé, le revenu par chambre disponible est en fort repli en Chine. Ça a plus de moins 30%. Et donc, du coup, l'action est sanctionnée, moins 9% ce jeudi. En tout cas, là, on est dans une phase de transition, et on voit que ils sont plus touchés, j'ai envie de dire, entre guillemets, en bourse pour l'instant que dans les résultats. Mais ça va être un secteur très intéressant à regarder dans les mois qui viennent, notamment si ça repart, si l'économie repart, si tout ça se tasse, parce qu'en fait, ce sera bien évidemment les premières valeurs à exploser, ou en tout cas à monter beaucoup plus vite que les autres.
Oui, sachant que c'est des valeurs, si on parle d'accord, qui n'a pas retrouvé ses niveaux pré-Covid en plus. Hein. Il y a encore des valeurs qui sont encore affectées par la pandémie, avec notamment, vous l'avez dit, l'Asie qui pèse sur les résultats d'accord, moins 9,5% aujourd'hui, sous les 26 euros. Merci beaucoup Jean-Louis Delroux qui nous accompagnait donc aujourd'hui, rédacteur en chef adjoint du site bfmbusiness.fr, pour faire donc un point sur la situation, sur les valeurs donc et la consommation, est-ce que ça a un impact ou pas sur ces entreprises. Dans un instant, on va rejoindre un autre Jean-Louis Cussac, qui nous accompagne depuis Perceval Finance Conseil. On fera un point sur la séance à Paris, alors que le CAC 40 est une nouvelle fois à la porte des 6300 points. 6296 points, une hausse de 0,6%. Stop ou encore, on voit tout cela dans un instant avec Jean-Louis Cussac. À tout de suite.